Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambient Memory, l'interview. Ce soir, je reçois un artiste grenoblois. Il est compositeur, producteur de musique électronique et ambiante. Aurélien, alias pardon, Ghost in the Loop, va nous parler de son album qui sort le 20 octobre, intitulé Le Chant de la Glace, enregistré dans un glacier, mais aussi de son parcours musical. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Philippe.
Eh ben, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Ambient Memory. Donc, ben, pour les auditeurs qui te découvrent, donc, tu produis de la musique ambiante, tu fais aussi un petit peu de musique électronique. Donc, comment justement ça a débuté cette aventure de production de musique?
Alors, c'est vrai qu'à la base, moi, je suis vraiment plutôt axé rock, voire même métal. C'est par là que j'ai commencé mes armes dans la musique. Donc pendant de très nombreuses années, c'était guitare et basse dans différents projets. Avec un de mes groupes, on avait pour ambition de faire un troisième album un peu plus rock électro. Et puis malheureusement, le Covid est passé par là. On a tous un peu subi le monde mis en pause pendant de nombreux mois. Et je me suis donc retrouvé enfermé avec quelques synthétiseurs analogiques et boîtes à rythme que j'avais acheté pour travailler justement les nouveaux morceaux avec le groupe. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à explorer la synthèse sonore, les séquenceurs, et puis aussi les appareils à bande. Parce que j'ai tout vu sur Instagram, justement, des personnes qui utilisaient ces appareils-là. Et j'en ai commandé, et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu mon projet électro-ambiant expérimental pendant le confinement.
D'accord, donc tu as ouais, des bandes Revox, ou des même sur cassette peut-être, des bandes cassette, tu travailles avec ces éléments?
Ouais, tout à fait. J'ai commencé par acheter un 4 pistes Yamaha, je me souviens plus de la référence, qui enregistrait sur cassette. Il marchait pas très bien pour les tape loops, donc les boucles de bande, mais il était pas très performant pour ça. Mais j'ai quand même pu expérimenter un petit peu avec cet appareil. Et puis très vite, oui, je suis passé sur un Tascam, un Porta Studio 424, qui fonctionne merveilleusement bien pour tout ça. Et puis ensuite un Revox A77. Un Roland Spacico RE201. Donc, ouais, je me suis pas mal investi dans ces appareils-là par la suite.
Et justement, comment as-tu appréhendé l'utilisation de ces machines? Est-ce que ça a été simple au début ou tu as vraiment tâtonné, même si voilà, tu as eu pas mal d'infos sur le net? Et puis, je pense que tu as aussi pêché différentes infos pour justement utiliser ces différentes machines.
Ouais, j'ai regardé pas mal de tutoriels, de vidéos de personnes qui maîtrisaient vraiment le sujet. Alors bien sûr, c'est quand même assez particulier les boucles de bande parce que c'est très imprévisible. On ne sait pas tellement ce qu'on enregistre et surtout on sait ce qu'on enregistre, mais on ne sait pas du tout comment ça va ressortir derrière. Alors au début, il a vraiment fallu que je m'habitue à ce nouveau mode d'enregistrement parce que moi, j'avais jamais vraiment fait ça du tout et c'était assez particulier au début, donc j'ai eu beaucoup de crash tests, on va dire. Mais j'ai très vite pris le pli et compris un peu le fonctionnement de ces machines-là dans ce contexte vraiment ambiant, un peu lofi expérimental. Et une fois que j'avais vraiment pris mes marques, j'ai appris aussi à accepter les erreurs et puis les heureux accidents, comme on dit, les happy accidents en musique, et accepter l'imprévisible. C'est ça qui est super, en fait, avec cette technique de composition et d'arrangement.
Oui, justement, est-ce que tu travailles c'est un petit peu au hasard ou tu as des thématiques? Enfin, tu pars d'une idée spécifique ou voilà, tu lances les machines et puis tu vois effectivement les accidents heureux, happy accident qui arrivent? Enfin, voilà, comment ça se passe pour toi?
Alors, tout dépend. Si je travaille sur un projet, que j'ai envie de sortir un album, l'exemple le plus parlant, c'est mon premier album, Music for Liminal Spaces. Donc là, j'avais vraiment un thème vraiment précis, les backrooms, les liminal space, qui étaient plutôt en vogue il y a quelques temps, puis qui le sont toujours d'ailleurs. Donc je suis vraiment parti d'un concept précis, et à partir de là, je me suis un peu fixé une sorte de cahier des charges. Donc utiliser exclusivement des bandes, des cassettes, des échos à bande encore une fois. Et j'ai vraiment suivi une direction très précise. Bien que dans le processus de composition et d'enregistrement, j'ai eu affaire à des surprises et puis le projet a aussi un petit peu évolué. Mais là, j'ai vraiment suivi une ligne directrice qui va d'un point A à un point B et entre les deux, j'ai un peu expérimenté. Ensuite, quand je n'ai pas vraiment de composition à faire ou de projet, que je suis plus dans une phase d'expérimentation ou de recherche d'idées, Bon, ben là, j'y vais sans filet. Je branche mes machines, j'essaye des choses. Parfois, ça ne rend absolument rien d'intéressant. Et puis, parfois, au contraire, je débouche sur des choses qui m'inspirent et je pars de cette idée-là pour faire évoluer le morceau ou l'idée sur quelque chose. Ça peut être un morceau ou une piste que je vais utiliser comme base plus tard, pour un autre projet.
D'accord, tu es aussi musicien, donc guitariste. Est-ce que bah, tu es là en autodidacte ou tu as pris des cours de solfège, de guitare
Alors, pour la guitare et la basse, non. Enfin, au début, j'ai commencé tout seul. J'ai très vite pris des cours dans un petit magasin de musique, là où mes parents m'ont acheté ma première basse. Alors, c'était un peu à la bonne franquette, on va dire. C'était pas un professeur de musique vraiment, comment dire, très académique, on va dire. C'était un peu à la cool. Et il voyait bien que je voulais vraiment progresser et j'étais vraiment mordu dans l'instrument. Et là, il m'a dit, bah, écoute, faut que tu ailles au conservatoire. Et j'ai intégré le conservatoire de Belley dans une section un peu particulière. C'était musique actuelle et improvisation. Donc, il y avait beaucoup moins de solfège que les autres classes, on va dire. Mais j'étais vraiment beaucoup plus confronté à d'autres musiciens, à la composition, à l'arrangement, à l'improvisation. C'était beaucoup plus basé sur l'écoute, en fait. Et ça, j'en ai fait pendant 6 ans. Donc, oui, pendant 6 ans, ça a été du conservatoire. Et après, j'ai dû arrêter à cause de mes études. Mais j'ai continué à faire beaucoup de musique dans d'autres groupes, des groupes de reprises, de composition, d'ailleurs.
Et après, bah, concernant tes différentes productions, bon, moi je t'ai découvert bah, sur en fait, les compositions pardon, de Mare Nostrum sur la Dive
Oui.
4 et 5. Est-ce que justement bah, tu étais sur un autre label ou tu as tout de suite, on va dire, été adopté par ce label Mare Nostrum?
Non, vraiment, Mare Nostrum, c'est le premier label. C'est vraiment c'est les premiers que j'ai contactés et c'est les premiers qui ont accepté de me prendre sous leurs ailes. Alors, en fait, j'avais découvert Mare Nostrum lors d'un podcast où justement ils étaient invités. C'était sur Ambient Travelers, je crois. Et justement, ils posaient des questions à Mare Nostrum sur le label, comment il fonctionnait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas en fait. J'ai des projets, j'ai envie d'aller un peu plus loin que de faire de la musique seule chez moi, devant mon ordinateur ou mes machines. Je me suis dit, ce serait quand même bien d'être soutenu par des personnes. Et je les ai contactés pour leur exposer mon projet d'aller enregistrer justement à l'Observatoire millimétrique de l'IRAM. Et voilà, je leur ai exposé le projet, je leur ai demandé s'ils étaient OK, si ça leur semblait être une bonne idée que je sois donc dans leur catalogue d'artistes. Et ils ont dit ouais, OK, go, on fait ça. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Anne et Alex.
Très bien, bon, on va parler bah, justement de ta discographie. Donc, tout à l'heure, tu parlais de Music for Liminal Spaces. Donc, c'est vraiment
Ouais.
le premier album que tu as fait en mars 2022, avec des sons assez mélancoliques, avec justement des cassettes, je crois, si j'ai bien tout
Ouais, tout.
compris. Et bah,
C'est vraiment exclusivement ça, des cassettes, des bandes.
voilà, est-ce que bah, justement c'est une histoire particulière? Enfin, comment tu en es venu justement à utiliser ces éléments pour produire ce premier album?
Eh bien, comme j'expliquais tout à l'heure, j'étais parti sur le thème des liminal space et des backrooms. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça peut être très long, mais c'est vraiment une esthétique qui est vraiment très forte visuellement, les liminal spaces et les backrooms. Il y a quelque chose de très puissant qui se dégage de cet univers. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire un album, ben justement, qui soit vraiment orienté sur ces éléments visuels. Et les cassettes et les tape loops, c'était vraiment tout indiqué parce que, comme tu dis, il s'en dégage vraiment quelque chose d'assez mélancolique, parfois de nostalgique. On a vraiment l'impression d'être confronté à des boucles de morceaux qui sont un petit peu perdus dans le temps, qui se mélangent, qui reviennent. Et je trouvais que ça collait vraiment à cet univers-là. Et bon, voilà, c'est exactement comme ça que je suis parti sur l'utilisation de bandes vraiment exclusivement appareils analogiques pour cet album.
D'accord, il y a aussi un album de samples, enfin je sais pas si on peut appeler ça un album de samples qui en découle quelques mois après, justement avec les loops et des cassettes. Est-ce que bah, c'est une continuité ou c'est pour amener justement vers autre chose?
Eh ben, en fait, c'est vraiment un pack de samples que j'ai sorti qui est plus dédié à l'utilisation, à de la production musicale. C'est-à-dire que c'est plus dédié aux artistes, ils vont télécharger les boucles et ils vont faire de la musique eux-mêmes avec. Donc c'est pas un album qui est fait pour être écouté, on va dire, chez soi ou en voiture. C'est plus un outil de travail pour d'autres musiciens.
Ben, du coup, en découle Cool Space Symmetry, donc sur le label toujours de Mare Nostrum. Et on le voit aussi en rework. Alors, est-ce qu'il y a eu une première version? Et donc, du coup, après, ça a été, tous les morceaux ont été retravaillés. Comment ça s'est passé, justement, pour cet album?
Alors, c'est vrai que cet album, il est un peu particulier pour moi. C'est vraiment le premier projet un peu ambitieux que j'ai réalisé. Parce qu'enregistrer à l'observatoire, ça a été compliqué. Vraiment très laborieux. Ne serait-ce que la randonnée pour accéder au site est vraiment très difficile. Il y a plus de 1200 mètres de dénivelé sur 5 km. C'est vraiment un terrain accidenté. Avec le matériel dans le dos, c'était assez physique et éprouvant. Donc, j'étais dans une condition mentale et physique assez particulière sur place pour enregistrer les morceaux. Voilà, la fatigue, la concentration. On a découlé un album assez, comment dire, atmosphérique, mais avec beaucoup de touches post-rock, voire même parfois un peu shoegaze. C'était pas du tout prévu. À la base, j'avais pas prévu de faire des morceaux comme ça, parce que c'est de l'improvisation. Voilà, encore une fois, j'ai pris des risques, j'y suis allé sans filet. J'avais préparé mon matériel quelques semaines avant pour être sûr que tout fonctionne, mais j'avais pas travaillé de morceaux. Je voulais vraiment faire de l'improvisation sur un site pour me laisser inspirer par l'environnement qui m'entoure. Donc on a découlé 4 morceaux où c'est des improvisations live, qui sont très bien. J'adore les morceaux, même si parfois il y a des erreurs, bien sûr, on doit faire face à des imprévus. Mais c'est vraiment des morceaux assez simples. Ça a été enregistré sur 4 pistes, donc 2 pistes stéréo. Et je tenais vraiment à sortir le premier album sans faire beaucoup de post-production. Je voulais vraiment que les auditeurs soient confrontés à ce que moi j'avais dans le casque lorsque j'ai joué devant les antennes de l'Observatoire. Donc c'est le premier album qui est sorti, Cold Space Symmetry, c'était en septembre 2022 sur Mare Nostrum, accompagné donc des 5 vidéos live, des enregistrements donc, qui sont disponibles sur YouTube. Donc l'album a plutôt bien fonctionné, je suis très content, les musiques ont vraiment une saveur particulière. Et plusieurs mois après, j'ai réécouté les morceaux et je m'étais dit qu'il y avait quand même la place pour en refaire des remixes et surtout leur donner une deuxième chance avec un mixage beaucoup plus poussé, beaucoup plus précis et avec un peu plus de post-production. Pour étoffer justement un petit peu plus ce qui avait été fait à l'Observatoire. Au départ, j'aurais aimé faire des remixes moi-même, mais je m'étais dit que ça serait dommage que ce soit un projet fermé et que c'était vachement plus cool d'ouvrir les propositions de remix à d'autres artistes et voir ce qu'ils pouvaient en faire justement. Et c'est comme ça qu'est né le projet donc Cold Space Symmetry Ambient Rework, où sur la face A qui est sortie en cassette, il y a les 5 morceaux d'origine remixés et remasterisés. Et sur la face B, il y a 5 remixes exclusifs faits par des artistes du label Mare Nostrum. Donc ça permettait vraiment de donner une deuxième vie à ce projet qui, je pense, méritait complètement d'avoir une deuxième chance et une nouvelle version.
En plus, on a l'avantage, effectivement, comme tu le disais, d'avoir les vidéos YouTube. Donc, on a le son et l'image, surtout que le site est vraiment fabuleux, comme tu le disais.
Ouais, il est incroyable.
Après, effectivement, donc, il faut sûrement calculer le poids. Est-ce que, justement, tu avais aussi, j'imagine, des batteries pour alimenter toutes ces machines? Donc, est-ce que ça a été vraiment quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre, c'est-à-dire à porter tout ce pactage? Parce que j'imagine que tu as été seul ou peut-être accompagné, tu avais peut-être quelqu'un pour aussi t'aider à porter tout le matériel. Voilà comment ça s'est passé, 1000 mètres de dénivelé, j'imagine que ça a peut-être pris plusieurs heures, voire plusieurs jours, je ne sais pas.
Alors, j'avais déjà l'habitude d'enregistrer en extérieur, donc tout ce qui est solution d'alimentation, je les connais, et ce sujet-là, je le maîtrise relativement bien. Donc j'utilise des petites batteries, c'est pas des grosses batteries qu'on pourrait imaginer, des batteries de voiture, enfin je dis ça, mais c'est vraiment des petites batteries de téléphone portable qui font entre 21 000 et 5 000 mAh, donc c'est quand même assez léger, avec des câbles d'alimentation spécifiques, donc qui vont de l'USB à l'alimentation, comme on dit en anglais, DC Power. Donc c'est quand même très pratique, ça me permet d'économiser beaucoup d'espace et de poids et d'avoir quand même une assez grande longévité pour enregistrer et faire fonctionner mes pédales et mes sampleurs. Alors oui, c'était très compliqué, la randonnée était laborieuse. Tout était calculé parce qu'il fallait que tout rentre dans mon sac à dos. Donc la guitare, les pédales, le petit sampleur, les batteries, l'eau, il fallait beaucoup d'eau, on avait à peu près 3 litres et demi d'eau par personne, plus les rations, donc j'étais chargé avec, je crois que j'avais presque 17 kilos de matériel dans le dos, donc j'étais seul à porter mon matériel, donc que moi qui portais mon matériel musical. J'étais accompagné par donc Hugo Préveran, qui est le vidéaste. Donc lui, il avait ses trépieds, ses caméras, les objectifs. Et Fabrice Buffard pour la photo, qui lui aussi avait son propre matériel. Donc appareil photo, objectif encore une fois. Et chacun avait ses rations et son eau. Mais j'étais seul à porter mon matériel. Donc oui, la randonnée nous a pris c'était à peu près 4h30 de marche. On a quand même bien avancé parce qu'on était très chargé, on a été assez efficace. On a eu la chance avec Hugo de pouvoir faire un repérage 2 mois avant. Donc on était déjà allé voir l'observatoire avec très peu de matériel, on avait juste de l'eau et de la nourriture. Donc on avait déjà un petit peu anticipé le trajet. On savait par où il fallait passer, on savait les coins à éviter, les pierriers qui étaient trop dangereux et qui glissaient, parce qu'on a fait quand même pas mal d'erreurs sur le premier trajet. Donc le jour de l'enregistrement, on a vraiment optimisé la randonnée et l'itinéraire à prendre. Donc ça s'est relativement bien passé, même si c'était très dur physiquement. Là où on a un peu moins géré, c'est pour le retour, parce qu'on a enregistré l'album, donc c'est du one shot, hein. Les prises, c'est une seule prise, on se pose. Moi, je prépare rapidement le morceau avant que les caméras tournent, et après, c'est roue libre pendant la première prise. Donc ça nous a pris une bonne partie de la journée pour faire les 5 morceaux, et on est redescendu de nuit à la frontale, donc là c'était quand même assez dangereux, parce que il y a beaucoup de pierriers, c'est très raide. Alors c'était une expérience assez unique, mais bon, c'est ce qui a permis de rajouter une dimension aussi forte à ce projet, en fait. C'est tout, en fait, c'est non seulement c'est l'enregistrement, c'est les morceaux, mais c'est l'expédition en elle-même. Donc Cold Space Symmetry, c'est un album qui résonne en moi encore aujourd'hui de manière assez forte pour tout ce qui s'est passé autour. En fait, c'était vraiment une aventure avec les copains, c'était assez fou.
Mais j'imagine bien, est-ce que ça indirectement peut-être préparé aussi l'album qui sort le 20 octobre, le Chant de la Glace, parce que c'est pareil, ça doit être une expédition que tu as dû préparer, pareil avec du matos, mais là non pas pour monter sur 1000 mètres de dénivelé, mais plutôt d'aller dans un glacier. Est-ce que ça a été un petit peu justement les prémices pour préparer cet album?
Ouais, un petit peu, ouais. C'est-à-dire que quand Cold Space Symmetry est sorti, en fait, organiser ce genre de projet, ça prend beaucoup de temps. Je reviens rapidement sur Cold Space Symmetry. Ça m'a pris 1 an entre le moment où j'ai repéré le site et le moment où j'ai enregistré. Donc voilà, repérer le site, contacter Mare Nostrum, leur soumettre l'idée, demander des autorisations à l'observatoire pour être sûr que voilà, on ne gêne pas les scientifiques, si on a le droit de filmer, d'exploiter les images, planifier l'organisation. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc quand l'album est sorti, je me suis dit, ok, si je veux assez rapidement sortir quelque chose de nouveau pour garder ben, l'énergie de la sortie de Cold Space Symmetry, de proposer quelque chose assez rapidement, il faut tout de suite que je commence à rechercher un site et une nouvelle idée, un nouveau concept. Et donc oui, c'est en septembre-octobre que j'ai commencé à rechercher des nouveaux endroits. Et je suis tombé sur le glacier de Zinal, que j'avais déjà vu en fait quelques années auparavant, des photos qui ont circulé sur Internet. Et je m'en suis souvenu, et c'est à partir de là où je me suis dit, ben allez, ouais, le glacier de Zinal, ça me semble être une assez bonne idée. Déjà parce que ça a l'air d'être assez accessible, pas très compliqué, pas trop dangereux non plus. Et à partir de là, j'ai une nouvelle fois soumis l'idée à Alex et Anne du label pour voir si ça les branchait de me suivre sur ce nouveau projet. Encore une fois, faire un dossier à présenter à des personnes qui seraient susceptibles de nous aider pour organiser l'expédition. Donc voilà, ça aussi, ça a pris beaucoup de temps. On a mis quoi, 6-7 mois pour organiser l'expédition à Zinal. Pour déjà trouver un guide de haute montagne qui puisse nous expliquer le site, est-ce que c'est dangereux, où est-ce qu'on peut passer, s'il y a des avalanches, s'il y a des risques d'avalanches, quel chemin il faut prendre, quel chemin il ne faut pas prendre. Enfin, tout ça prend énormément de temps, en fait. Trouver un sponsor pour quand même essayer de nous aider à financer l'hébergement. Parce que là, Zinal, c'est quand même assez loin. Et pour des soucis de confort, c'est quand même plus pratique de dormir sur place la veille et partir très tôt le matin en partant d'un refuge. Donc voilà, tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps et pour trouver les bonnes personnes qui soient prêtes à s'investir et nous aider dans ce projet.
Mais tu as toujours le petit groupe, notamment Fabrice Buffard, dont tu parlais tout à l'heure, qui faisait les photos. Donc c'est un peu toujours la même équipe qui te suit, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Donc après, pour mettre ça en place, donc ça va donner pas mal de choses. Donc le 20 octobre, l'album Le Chant de la Glace sort. Donc il y a eu quelques vidéos YouTube. Alors c'est un petit peu pour promouvoir justement ce nouvel album. En plus, il y a une certaine particularité, bien sûr. Il va sortir en numérique, mais il y aura aussi une édition vinyle, une édition limitée en 100 exemplaires numérotés. Donc justement, tout ça, est-ce que ça a été vraiment quelque chose que tu voulais depuis très longtemps? Parce que ça, c'est déjà assez particulier par rapport au lieu où tu as enregistré l'album. Et puis surtout d'éditer des vinyles, parce que ça a quand même un coût. Voilà, comment ça s'est passé?
Comment dire, à la suite de Cold Space Symmetry et de l'édition Ambient Rework qui est sortie en cassette, je voulais faire du physique. J'adore faire de la musique. La sortir en streaming sur Spotify, tout ça, c'est formidable. Je suis très content. Mais c'est quand même autre chose de se dire que sa musique existe en vrai, en dur, enfin quelque part dans le monde, on va dire, dans le monde réel. Et la sortie physique, j'y tiens beaucoup. La sortie cassette pour Cold Space Symmetry, c'était un peu un crash test, c'est-à-dire voir un petit peu comment les choses se passent au niveau des ventes, est-ce que les gens adhèrent à l'idée. Et donc je me suis dit, pour Le Chant de la Glace, le projet est quand même beau, enfin, le lieu est exceptionnel. On a quand même appris beaucoup de nos erreurs sur l'enregistrement des Cold Space Symmetry, enfin, les choses à faire, les choses à pas faire, ne serait-ce que pour l'enregistrement et les images. Donc avec Hugo et Fabrice, on s'était un peu briefé avant pour optimiser le projet, hein, que ce soit aussi bien sur l'audio que sur le visuel. Et là, je me suis dit, quitte à sortir un nouvel album, autant faire un vinyle, faire un bel objet. Et quitte à proposer un album qui va être très immersif, très dans l'immersion du lieu, le fait de le sortir en vinyle, ça va, je pense, accentuer l'immersion. Avoir l'objet physique dans la main et puis la musique dans les oreilles avec les sons de la glace. Pour moi, le vinyle était tout indiqué sur ce projet. Et bien sûr, c'est un sacré risque, hein, c'est un sacré pari pour Mare Nostrum et moi-même, parce que Mare Nostrum, c'est leur première sortie vinyle, et moi aussi d'ailleurs. Donc ça a été quand même une grosse décision qu'on a prise ensemble. On n'est pas parti dans ce projet-là de but en blanc sans réfléchir. On avait quand même eu la chance de travailler avec le distributeur Digger's Factory, qui sont français mais qui sont un distributeur international, Et donc ça nous a quand même grandement donné confiance, parce que n'importe qui dans le monde peut précommander le vinyle à un budget quand même assez intéressant. C'est-à-dire que les frais de port, pour que ce soit quelqu'un qui habite à Grenoble ou à Lyon, c'est les mêmes que pour quelqu'un qui habite au Japon ou aux États-Unis. Et vu que mon public est quand même beaucoup dispersé de partout dans le monde, c'était vraiment pour moi un point crucial. L'expédition et la gestion des stocks, c'était vraiment un point à faire attention. Donc le fait que Digger's Factory s'occupe de tout ça et que ce soit enfin, aussi bien géré, ça nous a conforté dans l'idée de sortir le projet en vinyle, en fait.
Il y a beaucoup de fils de recording, comme tu disais tout à l'heure. Justement, est-ce que ce travail aussi a été, parce que tu avais produit, j'ai sauté un petit peu, j'ai refait une petite virgule,
oui.
Memorial Original Motion Pictures Sound a Part of Me, donc c'est deux morceaux qui sont... entre voilà, les machines et du field recording, est-ce que ça aussi, ça a été une passerelle justement pour t'amener à cet album le Chant de la Glace, ou c'était vraiment un projet à part?
Non, c'est plutôt un projet à part. En fait, c'est un réalisateur qui m'a contacté sur les réseaux sociaux, et en fait, il produisait un court-métrage, et il avait besoin d'un compositeur pour écrire la musique de ce court-métrage-là, et... Donc en fait, c'est comme d'un commun, on a travaillé ensemble sur la musique de ce projet, et j'ai sorti en fait le morceau en deux versions. Donc oui, il y a du field recording, mais c'est plus un projet à part et qui n'a pas donné, disons que ça n'a pas été un levier pour le Chant de la Glace.
Pour en venir au Chant de la Glace, comme tu l'expliquais, voilà, il y a un gros travail derrière, il y a justement Digger's Factory qui vous donne un sérieux coup de main pour la production des vinyles. Justement, voilà, il y a aussi des vidéos YouTube, donc on sent que voilà, la machine grandit, grossit. Est-ce que c'est quelque chose que tu projettes aussi sur d'autres choses, enfin, après, c'est peut-être un peu tôt pour parler de ça, mais j'imagine qu'après, il y aura peut-être d'autres idées qui vont venir après cet album.
Ouais, alors justement, c'est une bonne opportunité pour moi de développer un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que le Chant de la Glace, il est particulier. Il y a beaucoup de field recording, donc j'ai beaucoup enregistré des sons de la glace, aussi bien avec des micros super cardioïdes, donc qui vont permettre d'enregistrer les sons de manière très précise, mais aussi avec des micros de contact et des hydrophones qui eux se sont plus chargés d'enregistrer les vibrations des parois de glace, du glacier, de l'eau. Et donc j'ai utilisé ces enregistrements de manière brute pour créer, on va dire, un fond sonore sur lequel j'ai pu composer de la musique. Mais certains morceaux, certaines mélodies, certaines notes, certains accords sont générés par le glacier à travers mes micros, à travers mes synthétiseurs modulaires. Donc le glacier a vraiment une part aussi, une part vraiment, comment dire, c'est un musicien à part entière en fait dans ce projet-là. Et ça, c'était vraiment nouveau pour moi. J'avais jamais utilisé des micros ou du field recording de cette manière-là. C'était vraiment une expérience. Et ça s'est très bien passé. J'ai vraiment été content de moi-même. J'étais très surpris du résultat que j'ai eu. Et ça m'a vraiment conforté dans cette idée-là. Parce que déjà, c'est original. Enfin, je pense que d'autres musiciens le font. C'est pas ça l'idée. Mais c'est peut-être pas... si répandu que ça, enfin du moins c'était pas exploité aussi loin dans ce concept-là. Et oui, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit, il va falloir faire d'autres projets dans ce sens-là. Et donc comme j'expliquais tout à l'heure, ce genre de projet prend énormément de temps à monter. Donc là, le Chant de la Glace n'est pas encore sorti, que oui, je travaille déjà sur la suite. Je travaille déjà sur un nouveau projet, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ambitieux. Beaucoup plus dangereux aussi, mais encore une fois, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de définitif, parce que c'est encore les balbutiements, et donc, j'en parle pas encore trop, parce que voilà, c'est encore à l'état embryonnaire, on va dire. Mais je travaille déjà sur la suite, ouais, bien sûr, j'ai d'autres idées, et je veux vraiment aller plus loin dans ce concept-là d'immersion sonore, et de mélanger les sons organiques de la nature à de la synthèse synthétique. C'est vraiment super, j'ai adoré faire ça.
Bah déjà, en plus, c'est peu commun. Donc, il existe des musiques expérimentales où on entend de la glace qui fond, mais c'est dans, genre dans un mètre cube de glace, des micros qui sont plongés, on entend la glace fondre. Mais là, il doit y avoir une particularité, vu que c'est dans un glacier, l'acoustique, effectivement, peut-être la profondeur du glacier. Je ne sais pas si tu as été très dans les profondeurs du glacier ou plutôt vers l'entrée. Donc, tout ça aussi doit varier au niveau des sons, au niveau justement de ce field recording. Est-ce que il y avait vraiment un spot idéal dans ce glacier où tu t'es posé vraiment à l'endroit qui te semblait le plus approprié pour composer?
Alors en fait, ce qui est particulier avec ce glacier, c'est que l'entrée, en fait, c'est un très gros glacier. Il est quand même très long. Il est encore relativement en bonne santé comparé au. Enfin, il me semble qu'il est encore relativement en bonne santé comparé aux autres glaciers alpins. Bien qu'il continue de fondre inexorablement, hein, c'est pas une surprise, le réchauffement climatique n'est pas tendre avec nos glaciers.
Et comme celui du Mont Blanc notamment, qui a bien fondu.
Ouais. Donc le glacier de Dinal est encore quand même assez impressionnant. En fait, c'est une immense grotte de glace qui s'ouvre au bout de la langue du glacier. Et donc en fait, tous les étés, forcément, il fond plus et il y a une rivière sous-glaciaire qui sort du fond de la grotte. Et tous les ans, la cavité, donc la grotte naturelle, change. Elle peut vraiment prendre des formes très, très différentes d'une année à l'autre. Et donc cette année, c'était plutôt une espèce d'immense entonnoir, en fait, qui est très haut, très large, et qui s'enfonce et qui s'étrangle vraiment sur une bonne soixantaine de mètres. Donc au fond du glacier. Quand on est au fond du glacier, on est vraiment presque accroupi à quatre pattes sous des milliers de tonnes de glace. C'est assez impressionnant. Et donc, j'ai enregistré dans plein de spots, aussi bien à l'entrée qu'au fond. J'ai enregistré donc des sons. Il y a des plaques de glace au sol avec de l'eau qui coule dessous. Non, je me suis mis à plein d'endroits. J'ai vraiment expérimenté et j'ai vraiment voulu enregistrer des sons. Le plus de sons possible, le plus de variétés de vibrations possibles et imaginables, pour avoir à ma disposition le plus gros catalogue de sons possible et le mettre à ma disposition pour créer quelque chose le plus varié possible, en fait.
Tu me disais que ça fondait déjà, c'était enregistré en mars, donc ça sous-entend que les chaleurs étaient déjà assez fortes pour que le glacier fonde assez rapidement, si je puis dire. Donc j'imagine, on parle toujours de réchauffement climatique, des glaciers justement qui perdent justement de leur grandeur. Donc c'est assez impressionnant et j'imagine assez inquiétant. Ouais. Ben, j'imagine, après, tu avais, comme tu disais, de savoir où les endroits les moins dangereux, où tu pouvais justement y rester pour enregistrer. Mais ça, même si c'est une rivière, comme tu disais, assez souterraine, c'est assez impressionnant de se dire qu'au mois de mars, ça fond déjà de manière assez intensive.
Ouais, c'est vrai que. Alors, le guide de montagne nous a dit que le glacier était vraiment accessible de décembre à mi-mars. C'est-à-dire que nous, on était vraiment sur la dernière ligne droite pour aller y enregistrer, parce que justement, avec le Redoux, la rivière sous-glaciaire prend beaucoup d'ampleur et la grotte est vraiment inondée. On ne peut pas y accéder, en fait. Donc nous, en mars, là, c'était quand même assez praticable. Hein. La rivière sous-glaciaire, c'était quand même un petit ruisseau. Donc c'était pas... Ça paraît ne pas être alarmant. Je dis bien, ça paraît ne pas être alarmant. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de glace quand on est au fond de la grotte. Mais en dehors du glacier, quand on regardait justement les montagnes qui étaient sur le côté, il n'y avait pas de neige, hein, c'était vraiment de la caillasse en fait. Il y avait très peu de manteaux neigeux à l'extérieur du glacier sur les hauteurs. Donc pour un début de mars, c'est quand même assez inquiétant, surtout qu'on était à 2100 mètres d'altitude. Donc oui, c'est inquiétant, bien sûr. On le voit, hein, de toute façon, quand on est à l'extérieur, on voyait bien qu'on était déjà à une période de la saison où, normalement, quelques décennies avant, on aurait dû avoir beaucoup, beaucoup plus de neige. C'est clair et certain. C'est sûr et certain.
Et pour revenir donc toujours à l'album, est-ce qu'un live sera prévu? Tu as des projets pour faire connaître encore plus cet album?
Alors, le live, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis assez longtemps. J'aimerais beaucoup faire des lives, mais quitte à faire des lives, j'aimerais vraiment que ce soit aussi une expérience audiovisuelle. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment projeter des images qui ont été filmées au glacier par mon ami Hugo Prévran et créer donc non seulement une immersion sonore, mais une immersion visuelle en live aussi. Alors tout ça, ça demande pas mal d'organisation, de planification. Donc là, justement, je suis en train de regarder tout ça. Est-ce que ça serait judicieux d'investir dans des vidéoprojecteurs portables? Est-ce que ça peut être projeté sur autre chose que des écrans blancs et voilà, sur plusieurs. Oui, le live, je veux vraiment en faire, mais quitte à en faire, voilà, c'est avec de la vidéo. Donc je suis en train de me plonger là-dessus. Rien de fait, rien de sûr, encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose. J'y songe très sérieusement.
Est-ce que tu serais accompagné, tout ça, enfin après ça c'est peut-être à réfléchir, ou ce serait un live où tu serais vraiment seul sur scène, ça aussi, est-ce que tu as déjà pensé à tout ça?
Dans un premier temps, je pense que je serai seul sur scène. Déjà, ne serait-ce que pour un souci de logistique, j'aimerais être, comme mes performances en extérieur, j'aimerais être le plus nomade possible et pouvoir me déplacer avec le moins de matériel possible, tout simplement pour pouvoir prendre par exemple le maximum les transports en commun, le train, par exemple, si je dois aller jouer à Paris, admettons, si ça peut tenir dans un gros sac à dos et pouvoir me rendre sur place. De la manière la plus propre et écologique possible, ce serait vraiment formidable. Donc dans un premier temps, oui, plutôt tout seul. Après, si les lives fonctionnent et que ça grossit et que le projet devient de plus en plus important, oui, pourquoi pas être accompagné d'autres musiciens, mais c'est pas encore dans l'idée.
D'accord, plutôt un setup minimaliste, avec pour justement pouvoir attirer l'auditeur, on va dire, justement plus sur le son et un petit peu d'image, enfin, un petit peu de projection d'image sur différents supports.
Ouais, c'est vraiment l'idée. Pour l'instant, c'est vraiment l'idée qui s'en dégage pour ce projet-là, ouais, complètement.
Donc justement pour l'album, où est-ce qu'on peut se procurer justement l'album, donc sur Digger's Factory, enfin notamment pour donc l'édition limitée en vinyle, mais est-ce qu'il y a d'autres voilà, de disquaires où on pourra se procurer le disque?
Alors, dans un premier temps, voilà, l'édition limitée vinyle est disponible exclusivement en précommande sur Digger's Factory. Donc c'est là-bas qu'il faut se rendre pour avoir donc cette unique édition du vinyle. Il sera disponible donc le 20 octobre en téléchargement sur Bandcamp, sur le Bandcamp de Mare Nostrum Label. Et pour l'instant, c'est tout. Je ne sais pas trop si j'ai le droit d'en parler maintenant. Allez, on va faire une exclusivité.
Allez, une petite exclue. De toute façon, j'allais te demander si tu avais des exclus. Donc, allons-y,
Allez,
si tu peux en parler, hein, si c'est pas affaire d'État ou
oui.
top
Bon.
secret.
Non, non, non. Alors, en fait, Digger's Factory ont vraiment flashé sur mon projet. Ils ont vraiment adoré le concept Ghost in the Loop. Et donc, j'ai eu le responsable de la distribution internationale au téléphone il n'y a pas longtemps. Et donc, lui, il trouve l'album formidable, Le Chant de la Glace, il le trouve vraiment super. Et il dit que ça serait quand même bien que l'album soit aussi disponible à l'achat direct dans leur réseau de disquaires mondial. Donc, on est en train de faire des devis, de faire des études de rentabilité, en fait, pour voir combien de vinyles on pourrait presser et pour que voilà, les professionnels puissent les acheter et puis les proposer à la vente dans leur magasin. Ça serait pas une édition limitée, ça serait un vinyle beaucoup plus standard, c'est-à-dire pas bleu translucide numéroté à la main, ça serait un vinyle noir beaucoup plus traditionnel. Mais c'est aussi une bonne occasion de justifier l'édition limitée qui est en train de se faire. Ça me ferait un peu mal que les fans qui achètent un vinyle édition limitée maintenant le retrouvent 6 mois après dans les bacs. Ça serait dommage. Donc il y a dans les tuyaux une édition beaucoup plus standard qui devrait potentiellement être disponible à l'achat direct d'ici quelques temps.
D'accord,
Donc
donc
c'est plutôt très chouette.
oui, du coup il y aura les privilégiés qui auront l'édition, le vinyle bleu, et puis du coup après on a, comme tu disais, une version plus standard, vinyle noir pour voilà pour les autres, enfin sans méchanceté aucune, hein, je dis ça comme ça. Il y aura
Non,
certains
dis donc
privilèges de l'avoir en bleu.
ouais, tout à fait. Ben, c'est aussi voilà, c'est des précommandes et quitte à précommander l'album, autant avoir quelque chose d'unique. Et après, plus tard. Pour les retardataires ou ceux qui connaissaient tout simplement pas le projet et qui sont arrivés en cours de route et qui auraient voulu se procurer le vinyle, eh ben ils auront la possibilité de l'avoir une édition standard, mais ils auront quand même l'album en vinyle à la maison. C'est quand même assez chouette. Ouais. Mais avant toute chose, il faut qu'on arrive au bout des 100 préventes. Donc c'est ça vraiment l'objectif principal. Et si ça se passe bien, ouais, il y a vraiment possibilité de faire évoluer le projet sur quelque chose d'encore plus sérieux. Donc c'est vraiment super. Et puis le fait que Digger's Factory soit autant impliqué dans le projet, bah, moi, ça me conforte dans cette idée-là que mon idée de départ n'est pas si mauvaise et que ça plaît à des gens. Et je tiens vraiment à ce que ma musique existe ailleurs que sur Spotify ou en streaming. Je veux vraiment que n'importe qui puisse acheter un vinyle ou une cassette n'importe où. Ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Donc, voilà, le fait que Digger's Factory se soit impliqué autant dans ce projet, ça me fait vraiment plaisir. Et puis Marino Strug aussi, d'ailleurs, hein, je remercierai jamais assez Anne et Alex pour l'implication dans mes projets un peu fous, parce que ça demande beaucoup de temps, hein, ça leur demande, il faudra leur poser la question, mais je pense que je dois pas mal leur demander d'énergie. Donc, encore une fois, je les remercie vraiment d'avoir toutes ces personnes qui me soutiennent et puis qui me poussent dans cette direction. Bah, c'est une chance incroyable, en fait. Donc, merci à vous, hein, si vous m'écoutez, Anne, Alex, Cyril chez Digger's Factory, Yanis aussi, enfin vraiment, merci beaucoup à tout ce petit monde.
Bah écoute, je devrais normalement pouvoir poser la question à Alexandre ou Anne prochainement. Donc, mais oui, effectivement, un joli projet. Et du coup, est-ce que bah, tu resteras vraiment dans le style de la musique ambiante, ou tu serais peut-être amené aussi à repartir sur des choses un peu plus rock comme au début? Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça.
Alors ouais, le rock, ça me manque un peu, hein. C'est vrai que faire des concerts, faire de la scène et puis envoyer du gros son, ben, ça manque, hein. C'est sûr que c'est une énergie qui est très différente. Oui, j'aimerais bien refaire de la musique en groupe. Malheureusement, j'ai pas suffisamment de temps actuellement. Ghost in the Loop me prend beaucoup trop d'énergie et de temps pour ça. Donc, pour l'instant, je préfère me concentrer sur ce projet parce que ça, il y a une bonne énergie, il y a une bonne dynamique en fait autour de tout ça. Donc, j'ai pas envie d'y gâcher en me dispersant sur d'autres projets.
Bon,
mais pourquoi pas sur d'autres albums, peut-être d'autres sorties. Incorporer plus de guitares et du coup en live incorporer plus d'instruments joués, pourquoi pas, oui, c'est une idée, mais ça serait du coup différent encore, ça serait encore une autre facette du projet qui pourrait se développer, c'est une idée, ouais.
Tout à fait, de toute façon, après, il y a plein de ramifications. J'imagine que bah, tu peux avoir plein d'idées voilà, qui partent sur différentes choses.
Complètement, ouais, ouais. J'ai beaucoup d'idées en tête actuellement pour les projets futurs. Il faut juste que j'organise tout ça et puis que je vois dans quelle direction ça soit le plus judicieux, quelle direction est la plus judicieuse à suivre pour avoir une continuité assez fluide entre le Chant de la Glace et le prochain projet.
Tout à fait. Bon, on rappelle donc bah, du coup hein, l'album Le Chant de la Glace, donc sorti le 20 octobre. Il y a donc une édition limitée de vinyle, donc ça part assez vite, donc il faut bah, se dépêcher pour précommander.
Ah ouais.
Donc voilà, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et bah, sinon, après, il y aura l'album numérique qui sera bien sûr disponible à partir du 20 octobre sur toutes les plateformes habituelles, notamment Bandcamp.
Oui.
C'est bien ça. Très bien. Bah, écoute, bah, je te remercie, Aurélien, de nous avoir bah, justement éclairé, nous avoir. Bah justement expliquer un petit peu toute ton histoire musicale.
Et bah merci à toi.
Bah écoute, avec grand plaisir, voilà, on découvre encore un nouvel artiste. Donc voilà, bah, restez bien à l'écoute justement de Marno Strum notamment, d'Aurélien, donc pour son alias Ghost in the Loop, voilà sa dernière production, donc le Chant de la Glace qui sort donc le 20 octobre. Et ben merci, à très bientôt pour ben j'espère de nouveaux projets dont tu pourras nous parler notamment.
Ben j'espère, ouais, bien sûr, ouais, avec grand plaisir.
Et ben vous pouvez aussi vous abonner aux pages d'Aurélien Ghost in the Loop et puis du label Mare Nostrum. Pour avoir bah, du coup toutes les infos et tous les liens si vous voulez commander voilà l'album Le Chant de la Glace. Et bah, merci à toi, bonne soirée, bonne nuit et bah, j'espère à très bientôt.
Et bah, à très bientôt aussi et bonne continuation et à très vite ouais, sur les ondes du coup.
Oui, merci beaucoup, à bientôt.
Allez, à bientôt. Thank you.
Memory.
L'émission se termine. Vous avez pu écouter durant l'interview les morceaux suivants. Le chant de la glace, Ici commence, Murmure et lamentation. Ils sont extraits de l'album Le chant de la glace que vous pouvez vous procurer en numérique, mais aussi en vinyle édition limitée. Les liens disponibles sur la page Facebook et Instagram de Ghost in the Loop et aussi sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory. Je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambient Memory.